Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 21h à Jenin, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, le message de force lancé par Donald Trump aux dirigeants politiques et aux grands patrons réunis à Davos. Vous venez produire en Amérique, eh bien, ou bien vous devrez payer des droits de douane, a martelé le président américain. Visé par les mêmes menaces de sanctions, le Kremlin se dit aujourd'hui prêt à un dialogue dans le respect mutuel avec Donald Trump pour tenter de mettre un terme à 3 ans de conflit en Ukraine. Sur le front proche-oriental, Marco Rubio, le nouveau chef de la diplomatie américaine, promet un soutien inébranlable à Israël sur fond de fragile cessez-le-feu à Gaza et d'intervention de l'armée israélienne à Jenin, en Cisjordanie occupée. Enfin, en France, la disparition de Jean-François Kahn à l'âge de 86 ans, le journaliste, polémiste, grand amateur de débat et engagé au centre, était le fondateur de l'événement du jeudi et de Marianne.
RFI.
Déjà échaudé par tous les décrets et les menaces annoncées depuis son retour à la Maison-Blanche, les dirigeants et les patrons du monde entier réunis à Davos, eh bien, ont donc enfin pu l'entendre directement de la bouche du président américain. Venez produire en Amérique ou bien vous devrez payer des droits de douane, leur a lancé Donald Trump, qui intervenait en visioconférence depuis Washington. Durant son discours, le président américain a également appelé l'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP à baisser le coût du pétrole, estimant que cela aurait dû être fait bien plus tôt et aurait permis, a-t-il dit, de mettre fin à la guerre en Ukraine. Sur le fond de la guerre en Ukraine, justement après les menaces de nouvelles sanctions brandies par Donald Trump dans la foulée de son investiture, eh bien la Russie était restée silencieuse jusqu'à présent. Elle minimise ce soir les déclarations du nouveau président américain et se dit prête à dialoguer avec lui. Les précisions de Daniel Valot.
En Russie comme ailleurs dans le monde, les moindres déclarations de Donald Trump sont scrutées et analysées avec beaucoup d'attention. Et c'est ce qu'a reconnu ce jeudi le porte-parole du Kremlin. Dmitri Peskov, interrogé sur les menaces de sanctions formulées par le nouveau président américain, a d'abord pris soin de rappeler que Donald Trump, durant son premier mandat, avait déjà utilisé la méthode des sanctions à l'encontre de la Russie. Rien de nouveau donc, et rien de réellement inquiétant aux yeux du porte-voix de Vladimir Poutine.
Nous observons très attentivement les déclarations et la rhétorique utilisées. Nous faisons attention à toutes les nuances et nous restons prêts au dialogue. Le président Poutine l'a dit à plusieurs reprises, un dialogue d'égal à égal et dans le respect mutuel. Nous attendons les signaux, mais nous ne les avons pas encore reçus.
Donald Trump a dit plusieurs fois qu'il était prêt à une entrevue avec le président russe, mais sans donner pour l'instant de date ou d'échéance. Après avoir promis de régler en 24 heures la guerre en Ukraine, le nouveau président américain se montre moins pressé d'agir dans ce dossier qu'il ne l'a été au Proche-Orient. En tout cas, il reste toujours aussi flou sur ses intentions, n'ayant rien annoncé de tangible à ce stade, notamment sur l'aide militaire apportée par les États-Unis aux Ukrainiens.
Et plus largement sur les menaces de taxes douanières avant l'intervention du président américain à Davos, eh bien la patronne de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a quant à elle mis en garde contre les conséquences catastrophiques pour la croissance mondiale qu'aurait une guerre commerciale qui dégénérerait en représailles, prédisant un retour aux années 30 avec des pertes à 2 chiffres du PIB mondial. Même si des taxes douanières sont annoncées, s'il vous plaît, gardez votre calme, a ainsi exhorté la patronne de l'OMC. Sur le dossier proche-oriental, le tout nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, promet un soutien inébranlable à Israël sur fond de fragile cessez-le-feu à Gaza et d'intervention de l'armée israélienne à Jenin en Cisjordanie occupée. Alors que cette ville se trouve toujours visée par des tirs nourris, ce matin, des centaines de Palestiniens ont dû quitter le camp de réfugiés de Jenin au 3e jour d'une vaste opération militaire israélienne qui a déjà fait au moins 12 morts. Pierre-Olivier.
Quatre jours après le cessez-le-feu à Gaza, c'est sur un autre front que les violences se poursuivent, alimentées par un soutien inébranlable de Washington à Israël. Depuis mardi, l'État hébreu mène une opération d'envergure à Jenin, à une dizaine de kilomètres à l'est de ses frontières. Baptisée « mur de fer », elle vise, d'après Benjamin Netanyahou, à éradiquer le terrorisme dans la ville et notamment des djihadistes du mouvement islamiste palestinien qui se dissimuleraient dans le camp de réfugiés de Jenin. Avec des bulldozers, des blindés et le renfort de l'aviation, Israël ne lésine pas sur les moyens. Les routes qui mènent au camp ont été détruites pour s'assurer, selon l'armée, qu'aucun engin explosif n'y soit caché. Mais les témoignages sur place se multiplient. Les habitants sommés d'évacuer le camp auraient fui à pied sous les bruits de drones. Une version des faits démentie par Israël qui annonce dans le même temps avoir abattu deux membres du djihad islamique. Le bilan des trois jours, lui, serait bien plus lourd. Au moins 12 morts, selon les autorités palestiniennes.
Et toujours au Proche-Orient, au Liban, première visite d'un chef de la diplomatie saoudienne depuis près de 15 ans à Beyrouth. Après des années de relations extrêmement tendues, le ministre saoudien Faisal Ben Farhan a ainsi rencontré le tout nouveau président libanais Joseph Aoun. Et il s'est dit confiant dans la capacité des nouveaux dirigeants libanais à mener des réformes nécessaires pour renforcer la sécurité, la stabilité et l'unité du pays. Des réformes qui sont le préalable au déblocage des aides pour reconstruire le Liban, toujours plongé dans la crise économique et après la guerre dévastatrice entre le Hezbollah pro-iranien et Israël. Il est 20h06 à Paris, au Royaume-Uni. En juillet dernier, l'attaque de Southport avait profondément choqué le pays, alors qu'un jeune de 17 ans avait fait irruption dans un centre aéré qui proposait un atelier de danse pour des enfants. Il avait alors poignardé à mort trois fillettes, en blessant une dizaine d'autres. L'assaillant vient d'être condamné à 52 ans de prison minimum. Les précisions à Londres d'Emeline Vin.
Axel Roudakoubana vient d'être condamné à la perpétuité avec une période de sûreté de 52 ans pour meurtre, tentative de meurtre et possession de documents liés à un groupe terroriste. Encore mineur lors de la tuerie de Southport en juillet dernier, le Gallois ne pouvait pas recevoir de peine incompressible, mais le juge estime qu'il ne retrouvera probablement jamais la liberté. Expulsé deux fois de la salle d'audience, ce jeudi, le jeune homme n'a pas assisté aux déclarations des parties civiles. Les parents, les enfants et deux animatrices du centre aéré ont raconté cette journée atroce de juillet. La violence de l'attaque, le sang partout, les blessures et la mort, les cauchemars et la culpabilité d'avoir survécu. Même l'avocat d'Axel Roudakoubana a peiné à mettre en avant des circonstances atténuantes. Le volet judiciaire des meurtres de Southport s'achève donc ce jeudi, mais il reste un accusé et de taille l'État. Fasciné par la violence, Axel Roudakoubana avait été signalé trois fois au service antiterroriste. Le gouvernement a promis une enquête pour identifier les échecs qui ont mené à la tuerie et n'exclut pas de faire de la violence extrême une motivation terroriste. Emeline Vallondre, RFI.
En France, une toute nouvelle prison de haute sécurité pour les narcotrafiquants ouvrira ses portes fin juillet prochain et deux autres d'ici deux ans pour détenir environ 600 narcotrafiquants particulièrement dangereux. A annoncé ce matin le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. 4 millions d'euros ont été débloqués pour la mise en place de cet établissement rénové dont les pensionnaires seront mis à l'isolement total dans un lieu où il sera absolument impossible de se faire livrer téléphone ou drogue, a encore promis le ministre. La disparition du journaliste Jean-François Kahn, à l'âge de 86 ans, le polémiste, grand amateur de débat et engagé au centre, était le fondateur de l'événement du jeudi et de Marianne. Il avait apporté son soutien à la candidature de François Bayrou à la présidentielle en 2007, puis en 2012. Le Premier ministre qui salue ce soir un géant et un homme rare, Aram Beng.
Il incarnait le centrisme révolutionnaire, l'humanisme et la fidélité. C'est en ces mots que le Premier ministre a rendu hommage sur le réseau social X à Jean-François Kahn, engagé au sein du MoDem de François Bayrou. Frère du généticien Axel Kahn, il fait carrière dans le journalisme dès la fin des années 50, dans la presse écrite. Historien de formation, Jean-François Kahn a notamment couvert à cette époque-là la guerre d'Algérie pour le compte du journal Paris Presse, L'Intransigeant. Il a également également suivi la guerre du Vietnam dans les années 60, période où il signait pour le journal Le Monde et ensuite pour l'Express. À partir des années 70, le désormais célèbre journaliste rejoint l'univers de la radio. Puis en 1997, il fonde avec Maurice Safran l'hebdomadaire d'information Marianne, dont il fut le directeur jusqu'en 2007. En 2014, il publie L'horreur médiatique, un ouvrage critique sur les médias qu'il juge menacé par la pensée unique.
Il est 20h10 à Paris, c'est la fin de cette édition, mais restez à l'écoute de RFI. Dans un instant, vous retrouvez votre magazine européen, Accent d'Europe.